On parle corps libre, cœur sauvage, une aventure dédiée aux femmes vivantes ce matin dans les studios de Radio Royan, parce que j'ai le plaisir de recevoir Patricia Olive, ancienne danseuse, chorégraphe, praticienne et formatrice somatique certifiée en Body Mind Centering, on aura le temps de décrire de quoi il s'agit, qui sort ce livre, Corps libre et cœur sauvage, et qui vient nous en parler ce matin. Bonjour Patricia.
Bonjour, merci beaucoup pour ton accueil.
Bienvenue dans les studios, on va avoir le temps de dérouler un peu de quoi il s'agit. Tu nous as fait la proposition de venir présenter ce livre, un livre que tu dédies aux femmes, parce que c'est ta pratique.
C'est ça, parce que je suis une femme, parce que j'accompagne principalement des femmes et que j'avais envie de m'adresser aux femmes spécifiquement par rapport à la relation à leur corps.
Donc ça, c'est vraiment ton fil rouge, ton angle d'attaque, c'est quel rapport on a à nos corps, ce corps avec lequel on vit toute notre vie, comment il a été façonné, comment on peut dépasser peut-être un rapport conflictuel avec lui. Et c'est d'abord peut-être ta pratique de danse qui t'a amené à... C'était ton outil finalement, ton corps.
Oui, oui, bien sûr. C'était mon principal outil pendant 35 ans à peu près. Déjà, il y a cette effectivement pratique de la danse et forcément à travers le corps. Mais il y a aussi des prises de conscience au fur et à mesure de la vie et des expériences. Ce qui m'a donné envie, c'était de partager, d'une part, des connaissances, des compétences, mais c'était aussi de alerter, d'une certaine manière, les femmes, donc, notamment, à cette difficulté qu'elles ont à habiter leur corps. Et du coup, à donner des solutions, en tout cas, des pistes, soit d'exploration, soit de réflexion, en tout cas, en partageant moi-même ce que j'ai vécu, en partageant des vécus d'expérience avec des clientes. Et ce qui m'a vraiment décidé à aller au bout de cette écriture, c'est d'une part la mort de ma mère, qui est morte d'une SLA, qui est une maladie très grave, la maladie de Charcot. Et c'est aussi le fait que j'ai eu moi-même une alerte avec un cancer du rein. Et là, je me suis dit, bon, là, il est temps que je partage le fait que c'est hyper important pour moi, primordial, de prendre soin du corps et de pas tomber malade, justement, pour éviter de tomber malade.
C'est la maladie qui t'a confronté comme une évidence à cette primauté du corps dans la vie?
Oui, c'est tout ça, en fait. C'est mon vécu en tant que danseuse. C'est aussi, tu sais, c'est pas parce qu'on est danseuse qu'on est forcément en bonne relation avec son corps.
C'est vrai qu'on pourrait le croire.
Voilà, on pourrait croire ça, mais c'est faux. Il y a eu des années de façon de conditionnement par rapport à la façon d'être danseur, dans le sens où il n'y avait pas forcément une écoute somatique, une écoute holistique de l'être, parce qu'il y a le corps, mais il y a l'être aussi qui est dans ce corps. Et la pédagogie de la danse, c'était pas forcément très en accord avec le corps, forcément, tu vois.
Très respectueux de son rythme, tout ça.
Du coup, c'est un peu tout ça qui m'a décidé. Ça fait longtemps que je suis sur ce livre, ça doit faire 6 ans.
Oui, j'allais te demander depuis combien de temps ?
Ça fait 6 ans. Ça fait depuis que je suis ado. J'étais au lycée quand j'avais envie d'écrire un livre. Et j'ai écrit comme ça beaucoup à l'époque, des poèmes, des petits textes, des trucs où j'étais en rébellion aussi par rapport à la société à cette époque-là. Je le suis encore, mais pour d'autres raisons, avec une forme de maturité avec le temps. Et je dis, un jour, j'écrirai un livre. Donc tu vois, ça date.
C'est bien d'arriver, ça donne de l'espoir aussi, de dire tiens, on a envie de quelque chose à l'adolescence, puis ça se passe
c'est ça,
bien 60 plus tard.
Ans après. 50 ans après plutôt, 40 ans après. Bon bref, en tout cas, moi je suis allée au bout. Et le fait que j'aille au bout, c'était cette histoire de maladie. C'était le fait de prendre soin de son corps, qui est un trésor.
Alors, ce que tu développes dans ce livre, c'est, ça se passe un peu en trois étapes. D'abord, pour toi, c'est important de comprendre. Donc, on va y venir. Hein. Tu vulgarises aussi toute une littérature féministe pour comprendre quel est notre rapport au corps. Ensuite, on va passer par essayer de le transformer, ce rapport au corps, et puis élargir. Et là, on passe plutôt dans un domaine plus spirituel. Comment t'as construit un peu cette construction narrative un peu dans ton livre?
Oui. Déjà, j'avais envie d'expliquer, selon moi, hein, évidemment, ce n'est que moi qui ai voulu faire une synthèse, ça ne veut pas dire que c'est exhaustif et ça ne veut pas dire que c'est la vérité. J'ai voulu faire une synthèse de différentes lectures que j'ai pu avoir sur la relation au corps, parce que ce n'est pas seulement le corps, c'est la relation au corps, le sujet en fait. Et cette synthèse, c'était expliquer qu'est-ce qui fait, selon moi, que l'on a une mauvaise relation avec son corps en général. Je veux dire en général, parce que je pense que c'est quand même 90%, si ce n'est plus, de femmes qui sont en mauvaise relation avec leur corps. Et voilà, donc j'ai voulu expliquer, selon moi, qu'est-ce qui fait qu'on est en mauvaise relation, et puis donner des pistes, en tout cas. Ça ne veut pas dire que, pareil, c'est la vérité pure. C'est ma façon à moi de traduire comment on peut transformer cette relation et ouvrir, effectivement, sur la troisième partie, sur une vision plus holistique, spirituelle, énergétique.
Donc, avant de rentrer dans ce guide pratique plutôt de développement personnel avec des exercices concrets, il faut d'abord effectivement comprendre la genèse. Pourquoi est-ce qu'on est, si tu dis 90% des femmes sont dans une forme de conflit, dans quelque chose de soit d'être absente de leur corps, soit de le détester, soit de le martyriser un peu,
de le renier.
On est dans des choses qui, et c'est là où tu vas chercher de la littérature, puisque les féministes ont beaucoup écrit sur le corps, sur la question patriarcale, sur comment la famille, la religion, l'école, enfin tout ça façonne un rapport au corps qui peut être compliqué.
C'est ça, et du coup je reprends des choses que je cite d'ailleurs dans le livre, la façon dont la société de consommation, la façon dont la société patriarcale, les injonctions familiales nous ont poussé à avoir une relation qui n'est pas forcément saine, spontanée ou naturelle avec son corps, parce que on est conditionné par rapport à la façon dont il devrait être. On a du mal à accepter la façon dont il est.
Ça, c'est vraiment aussi la socialisation des petites filles, parce qu'on pourrait se dire, dès l'enfance, si on gardait quelque chose d'assez instinctif avec notre corps, peut-être ça se passerait bien, mais c'est vraiment ce conditionnement. Alors pour les garçons, ça va se passer plutôt autour de la performance et tout ça, mais les filles autour de quelque chose qu'on appelle la claustration, quoi, quelque chose de très qui réduit en fait ses potentiels.
Complètement. Oui, moi j'ai pu constater ça d'ailleurs en tant que danseuse où j'intervenais à l'époque, soit dans des maternelles, j'ai intervenu dans toutes les sections primaires, collège, lycée. Et en maternelle, je me disais, on va avoir une relation facile en fait avec les petites filles ou les enfants tout simplement. Ben, pas forcément en fait, parce que dès la maternelle, il y a une forme de frein finalement à son expression, parce qu'il faut correspondre à ce qu'on attend de soi. Mmh. Donc c'est pas parce qu'on est enfant que tout est facile et tout est libre.
Mais disons que ça aurait pu, si on avait regardé ce truc-là de la petite enfance plus libre, effectivement, après, dès l'école maternelle, on va demander aux petites filles d'être sages, déjà de tenir, ça c'est pour tous les enfants, mais de tenir dans un cadre très, très contraint.
Ouais.
À la limite, on va autoriser les petits garçons à grimper aux arbres et à se bagarrer, mais pas les petites filles. Enfin voilà, il va y avoir tous ces conditionnements-là qui vont avoir des répercussions.
C'est ça. Dès les cadeaux qu'on fait à la naissance, en fait, il y a déjà ce clivage entre garçons et filles. Mais là, c'est pas tellement de ça dont je parle dans ce livre, c'est surtout du rapport au corps.
Et après, dans la deuxième partie, tu vas vers la question de la transformation. C'est une fois qu'on a compris d'où ça vient, donc comme on disait, les injonctions, la société, le patriarcat, la famille, la religion. Ah oui, la religion très, très, très virulente sur nos corps. L'idée, c'est, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait avec nos corps? Comment on répare? Comment on désapprend? Peut-être on détricote des choses?
Complètement, ouais, tout à fait. C'est-à-dire que c'est déjà une fois qu'on a compris, donc, qu'est-ce qui fait qu'on est en difficulté, déjà, je trouve que ça fait prendre un peu de recul par rapport à sa relation à son corps, parce que on se dit, il n'y a pas que moi qui suis coincée, il y a tout un contexte qui fait que j'ai des difficultés dans cette relation à mon corps. Donc déjà, ça J'espère en tout cas que ça donne de l'espoir.
Peut-être ça déculpabilise.
Ça déculpabilise complètement. Donc il y a une forme de recul. Et donc là, on peut être prêt maintenant à envisager, ben, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les pistes? Donc moi, je propose 4 portes. Ça, on a présenté ça comme ça avec l'éditrice. Donc il y a la relation body-mind, parce qu'il y a le corps, mais il y a aussi le mind. C'est pas que le corps, il y a aussi cette relation avec l'esprit. Puis je parle du système nerveux, parce que je pense que c'est un de nos systèmes corporels qui est fondamental à réguler, puisqu'on est en grande difficulté au niveau de la société actuelle, dans notre façon d'être, parce qu'on n'a pas appris, on ne connaît pas forcément. Donc là, c'est vraiment une vulgarisation hein, du système nerveux polyvagal, la théorie polyvagale. Ensuite, je parle de la place que l'on prend ou que l'on ne prend pas, justement, que l'on a des difficultés à prendre. Et la quatrième porte, c'est les saisons personnelles. C'est en fait, c'est l'objet de mon prochain livre que je suis en train de terminer, là, du deuxième qui arrive. C'est la relation que l'on a avec les saisons. C'est-à-dire qu'il y a des saisons à l'extérieur et on vit des saisons à l'intérieur. Mmh. On peut vivre une année, voire même, j'ai eu une cliente, 4 années d'hiver parce qu'elle avait vécu un burn-out, elle s'est séparée de son compagnon, elle a arrêté un métier qu'elle faisait, bon bref. Et le temps que ça se transforme, le temps qu'elle traverse tout ça, ça a duré 4 ans. Mmh. Donc c'est pas parce que on est en été à l'extérieur que on est en été à l'intérieur, etc. Voilà, je parle de ça.
Donc c'est 4 portes pour transformer ce rapport au corps. Peut-être que vu qu'on est dans quelque chose qui vulgarise et qui donne accès à des théories que peut-être les gens ne connaissent pas, sur le body mind centering, c'est quelque chose que tu as beaucoup pratiqué toi en tant que danseuse. Est-ce que tu peux en dire 2 mots pour les gens qui connaissent pas?
Oui, ben effectivement, je suis praticienne et formatrice de body mind centering, c'est une formation américaine, qui est une forme de pratique qui a été mise en place par Bonnie Benbridge-Cohen. Qu'est-ce que c'est? C'est une pratique somatique, ça fait partie de la Fédération des pratiques somatiques avec Feldenkrais, Alexander, etc. C'est une formation pour apprendre à bien connaître son corps. Donc déjà, on a des modules autour des 12 systèmes corporels, en tout cas certains des systèmes qu'on va vraiment étudier à la fois anatomiquement, physiologiquement, mais aussi on apprend à toucher les éléments de chacun des systèmes. Et le fait de toucher ces éléments, ça ressemble un petit peu à de l'ostéopathie, on va surtout le mettre en application en mouvement. C'est ça le BMC.
C'est très subtil.
C'est très subtil.
Comme sensation à l'intérieur, d'être très à l'écoute des choses dont on est un peu coupé dans notre société.
Complètement. C'est qu'on apprend à découvrir déjà les systèmes qu'on connaît pas forcément. On apprend à ressentir. Il y a vraiment ce retour à l'intérieur. On va jusque dans les cellules du corps. Et donc, à partir de ce vécu qui a été réveillé, le système a été réveillé par le toucher, on le met en mouvement et il y a beaucoup de danseurs qui suivent cette formation.
Donc ça, c'est pour le body-mind centering. C'est pas mal les danseurs et les danseuses qui sont formés à ça, mais ça commence à avoir un essor un peu dans la société, on peut dire.
C'est ça, oui, ça commence, oui. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le paramédical qui font cette formation aussi.
Et puis après, la théorie polyvagale. Alors ça, c'est pareil, on en parlait un peu hors micro. C'est quelque chose qui, de plus en plus, on en entend parler.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, ça devrait... Enfin, c'est plutôt... On peut se réjouir de ça parce que c'est quand même un peu la base.
Ouais,
c'est la question de la régulation de notre système nerveux. Tu peux aussi en dire 2 mots pour...
Oui, bien sûr. Ben, en fait, le fait d'avoir la connaissance minimale de ce système, encore une fois, c'est une vulgarisation. Hein. Je prétends absolument pas vous donner toutes les histoires, toute l'histoire et toute l'historique. Et la théorie est vraiment... ce que je propose dans le livre, c'est vraiment de la vulgarisation. C'est important pour moi, en tout cas, ça n'est pas que pour moi, de pouvoir réguler, de pouvoir connaître mieux son système nerveux afin de le réguler. Parce qu'on est dans une société où il y a quand même beaucoup de stress. Et le fait de découvrir qu'est-ce qui fait qu'on est en stress et que faire surtout pour le réguler, ce système nerveux, va nous aider beaucoup.
C'est un peu à contre-courant, à contre-pied du capitalisme et de la société productiviste dans laquelle on est.
Ah ben complètement, c'est pas en faire plus, c'est au contraire essayer d'en faire moins. Il y a une forme de minimalisme aussi, c'est-à-dire d'arriver à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'écouter son corps, parce que finalement, on est tellement à le cravacher, à le pousser, à le mettre en dehors de ses limites, à ne même plus l'écouter, que bah, du coup, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de tensions dans notre corps.
Et du coup, dans ta pratique somatique, puisque tu reçois des gens, tu les accompagnes, notamment des femmes, autour de renouer de ce lien avec le corps, comment tu t'y prends pour que des personnes qui sont façonnées par la société dans laquelle on est, donc éloignées de notre corps et très prises dans ce truc de stress, dans ce truc de performance, depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, comment tu t'y prends pour travailler ça avec elles?
Super intéressant la question. Eh ben écoute, déjà j'envoie un questionnaire à la personne qui vient suivre mon travail, où j'essaie déjà de déceler qu'est-ce qui se joue, quel est le contexte dans lequel elle vit. La première séance en général, parce que je reçois des personnes en retraite de 3 jours, la première séance elle est consacrée à comprendre justement le contexte. Je pose énormément de questions pour essayer de voir qu'est-ce qu'elle a vécu cette personne dans sa vie, ne serait-ce que comment elle est née, si elle a fait du quatre pattes ou justement tout ce travail sur les schèmes neuromusculaires, c'est la façon dont on a traversé les étapes de développement de la naissance à la marche. Donc je m'intéresse à ça puisque c'est une de mes pratiques avec le BMC. Je m'intéresse à la façon de, est-ce qu'elle a été allaitée ou pas, est-ce qu'elle est née par voie basse, par césarienne, tout ça a des conséquences sur notre relation au monde. Et compte tenu de tout ce qu'elle me raconte, en fait, je vais déterminer des protocoles, parce que j'ai mis en place des protocoles à force d'accompagner les gens. Et je vais utiliser, donc en général, il y a une séance sur les 2 séances de la journée où on va être spécifiquement sur le corps, pour aider la personne à justement réguler, pas que son système nerveux, mais ses systèmes dans leur ensemble. Et l'après-midi, on est plus sur une base d'une forme de coaching. J'aime pas trop ce mot parce qu'il est très mal, il est pas forcément bien vu, mais en tout cas c'est une forme d'accompagnement, je dirais, plus psychocorporel. Et on travaille avec plein d'outils, avec tous les outils que j'ai dans ma besace, que ce soit de l'écriture, du collage, des frises, des listes, des lettres que l'on écrit à des personnes, enfin bref. C'est assez varié, mais c'est une façon d'envisager la personne dans son ensemble et de façon très holistique.
Oui, je me demandais si tu passais aussi par du toucher.
Toucher, bien sûr.
Ouais. Donc c'est
surtout dans la partie du corps le matin. Ouais.
Et du coup, tes accompagnements, ils durent longtemps? Comment ça
Alors,
se passe?
Soit c'est une retraite de 3 jours, là, minimum, pour des personnes qui viennent vraiment se mettre en retrait, prendre du recul avec leur quotidien. Et là, je les accompagne pendant 3 jours avec plein d'exercices que je leur fais faire, même en dehors des séances qu'on a ensemble. Soit c'est un accompagnement de long cours. Ça peut être sur des forfaits de 5 à 10, voire même j'ai accompagné des gens pendant 1 an, 2 ans. Donc, mais c'est pas forcément toutes les semaines, hein, dans ces cas-là. C'est une fois par mois environ. Mais voilà, ça dépend des cas, ça dépend des personnes, de leurs besoins.
Et qu'est-ce que tu observes alors quand tu accompagnes, là je prends le cas que tu disais là, quelqu'un pendant 1 an, qu'est-ce que tu observes après de cette transformation du lien de la personne avec son corps?
Ben, déjà, elle commence à prendre conscience de certaines manières qu'elle n'avait absolument plus conscience. Tu vois, il arrive que j'ai des personnes qui n'ont plus aucun ressenti tellement elles se sont coupées de leur corps. Elles savent même plus quels sont les besoins du corps puisque elles ont plus écouté du tout. Elles savent même pas que elles ont des tensions à tel endroit, à tel endroit. Donc déjà il y a des prises de conscience notoires qui se font et des façons d'être avec leur corps parce que je leur donne des exercices qu'elles peuvent refaire à la maison qui va évidemment se transformer. Donc plus de liberté, plus de bien-être, moins de tension, plus de un meilleur sommeil, une meilleure façon d'être dans la société, ne serait-ce que la façon de marcher, de se porter, d'être dans la posture de son corps. Donc il y a ce genre de choses qui changent. Et il y a surtout la façon de se parler. Parce qu'en fait, souvent, on se parle très mal à soi-même. On se parle surtout pas comme on parlerait à une amie ou sa meilleure amie. On se parle très, très mal. Et donc, j'apprends tout ça. Donc, une manière d'être plus respectueuse de soi-même dans l'ensemble.
Faire taire les petites voix qui torturent et maltraitent.
C'est ça.
Et puis, quelque chose de plus incarné, quoi, de retourner, revenir dans son corps. Quoi.
Complètement, exactement. C'est se réancrer, d'arrêter de flotter au-dessus du monde, de revenir dans la chair, dans la matière, dans la relation au sol. J'ai toute une partie dans mon travail qui se fait rouler au sol, pousser sur ses appuis, retrouver la relation. Parce que je dis tout le temps, si on a une bonne relation avec la terre-mère, au plus on a une bonne relation avec la terre-mère, au mieux on peut s'en éloigner. Mmh. Et c'est très symbolique avec sa propre mère aussi.
Ça m'évoque une question plus large en disant, tiens, mais qu'est-ce que ce serait une société, un monde où on n'a pas ce rapport complètement verrouillé, complètement dissocié de notre corps? Comment on serait, nous, surtout les femmes, enfin avec des siècles de patriarcat qui nous maltraitent? Comment ce serait un monde comme ça?
Ça serait déjà un monde plus respectueux de soi-même, parce que ça commence par soi, selon moi, puis de l'autre. Parce que moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'avec les 5 ans de formation en BMC, j'avais jamais autant capté à quel point il était précieux, mon corps. Et c'est parce que je l'ai touché, je l'ai connu, je suis allée à sa rencontre, j'ai découvert les 3 lobes de mon poumon droit, les cellules, les tissus. J'ai découvert la façon dont il était constitué. Je n'ai plus jamais eu la même relation avec mon corps. Ça a été comme découvrir la vie en moi, qui était un truc de dingue. Et là, tout d'un coup, quand tu commences à réaliser ça, c'est comme en habitant en montagne ou dans la nature, proche de la nature, tu découvres à quel point c'est précieux, les saisons, à quel point c'est précieux la façon dont la nature accepte la transformation, par exemple. Elle ne résiste pas à l'hiver, elle se prépare à l'hiver, la nature. Et en fait, on a complètement ce lien entre la façon dont la nature vit et notre propre nature à nous. Je sais plus, c'était quoi la question?
Non, qu'est-ce que ce serait un monde? Parce que là, on est sur quelque chose d'assez individuel et ça passe aussi par là, hein, puisque on est des individus. Si tous les individus étaient régulés, comme on dit en théorie polyvagale, peut-être que ce serait moins. On serait moins dans des trucs de violence, tout ça.
Mais
du coup, collectivement, qu'est-ce que ça créerait?
Je pense que ça créerait une société où déjà il y aurait beaucoup moins de tensions entre les hommes et les femmes, parce que. Il y aurait plus une régulation, justement, un équilibre qui se remettrait en place, à mon avis. Et donc, c'est surtout qu'on serait dans une relation avec la nature et avec la planète qui serait beaucoup plus écologique. Parce qu'on serait plus écologique avec soi-même. Et comme on a une relation entre la nature et sa propre nature, il y aurait une forme de régulation, à mon avis, qui se ferait parce qu'on prendrait plus soin de soi, donc plus soin de l'autre et donc plus soin de notre environnement.
Ça a l'air simple, dit comme ça.
Ouais. C'est possible, en tout cas.
Et donc, une fois qu'on a compris, qu'on a fait tout un tas d'exercices pour s'entraîner à transformer avec ces 4 portes pour libérer son corps, tu nous invites à élargir.
C'est ça.
Qu'est-ce qui se passe dans cette troisième partie?
Alors, moi, je suis très intéressée en tant que femme et féministe par la relation à la femme sauvage. Et évidemment, à la femme souveraine. C'est l'objet de mon jeu oracle qui s'appelle « Sauvage et souveraine ». Et qu'est-ce que c'est pour moi la femme sauvage? C'est une femme qui retrouve son instinct, justement, qui retrouve sa part animale, qui a été complètement verrouillée, elle aussi, hein. Sa part spontanée, libre, de relation avec son corps qui est complètement, c'est un peu les Amazones, hein, qui avaient une relation. Alors il peut y avoir aussi des dérives et il peut y avoir aussi des extrêmes qu'il faut pas forcément suivre, mais, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver une part de spontanéité. Donc déjà, c'est ça l'élargissement. Et puis, d'atteindre la femme souveraine, c'est une forme d'individuation, c'est-à-dire de sortir justement, notamment du patriarcat pour s'émanciper, en fait. Et cette femme souveraine, elle va arriver progressivement. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est évident, mais c'est possible progressivement d'accepter d'une certaine manière sa responsabilité, parce que ça demande une forme de responsabilité, de choisir de devenir souveraine.
Les féministes vont parler de puissance ou d'empowerment ou d'empouvoirement, comme on dit en français.
Ouais.
C'est cette dimension-là.
C'est ça, complètement.
Retrouver de la puissance.
Ouais, ça rejoue ça.
Et on n'en a pas parlé, mais c'est quoi un peu les coulisses de la fabrication d'un livre comme celui-là? Parce que, il y a ta pratique, il y a tes origines de danseuse, le body-mind centering, toutes les choses que tu as lues, glanées. Et puis, il y a la volonté d'être passeuse, quoi, de le vulgariser pour les autres. Mais comment ça marche de fabriquer un livre comme ça?
Alors, écoute, ça prend du temps, déjà. Ce qui n'est pas évident, c'est que quand on n'est pas écrivain, on se croit incapable de le faire. Parce qu'on se dit, moi, je ne suis pas écrivain, je ne suis pas un intellectuel, par exemple. donc je vais jamais y arriver. Et puis en fait, c'est pas une histoire d'être écrivain ou intellectuel, c'est une histoire d'entraînement. C'est-à-dire qu'au plus on écrit, au plus on écrit. Donc déjà, moi je me suis fait aussi accompagner pour terminer le livre, parce que j'avais du mal à le finaliser, et j'ai pris un accompagnement pendant 3 mois. Et là, ça m'a permis de effectivement atteindre mon objectif. Donc j'ai fini en mars. En juin, j'ai envoyé le livre à des éditeurs. Et puis c'est pas parce qu'on envoie un livre à des éditeurs que l'histoire est faite. Ça devient difficile, hein, le monde de l'édition est en crise d'ailleurs, hein, le monde de l'édition est vraiment en crise. Et j'ai eu la chance, parce que les éditions Jouvence m'appellent fin juillet, je crois. Ouais, c'est ça, fin juillet, pour me dire qu'ils étaient partants pour me publier. Donc là, c'est vraiment génial, quoi, de trouver un éditeur qui s'intéresse à son ouvrage. Et voilà, ça prend encore du temps. Après, une fois que on a signé, ça a pris jusqu'en décembre pour le terminer, faire tout ce qu'il y avait à faire au niveau de la maquette, etc., et qu'il soit publié en février. Mais c'est pas forcément ça ta question. C'était aussi qu'est-ce qui m'avait amené à écrire, c'est ça ?
Oui, et un peu les coulisses, par exemple, comment ça s'organise ? Parce que toi, t'as écrit des choses à la fois théoriques, à la fois très pratiques, et puis du coup, il y avait vraiment cette idée aussi de donner. Donc ton livre, il est parsemé de petits encarts avec de la pratique.
Ouais.
Ça, c'était des choses qui sont passées avec l'éditrice, quoi.
Ouais, ouais. En fait, l'éditrice a voulu que ça se passe comme ça. Moi, j'aurais préféré faire un cahier d'exercices à part. Pour garder une forme de poésie dans l'écriture, et que ça soit pas forcément un truc qui peut être considéré comme
une boîte à outils.
Ouais, voilà. J'aurais préféré mettre les choses le cahier d'exercice à part, mais bon, c'est aussi des exigences de l'éditeur, on n'a pas forcément le choix, j'ai dû composer avec. Mais voilà, en tout cas, le livre, du coup, il a ce côté pratique qui est intéressant, notamment pour des personnes qui découvrent.
Puis ça répond aussi à peut-être une volonté, vu qu'on est dans quelque chose de très facile à appréhender,
pratico-pratique, ouais.
Ça marche aussi.
C'est ça.
Et donc maintenant, donc toi, t'es basée à La Chapelle-en-Vercors, on l'a même pas dit.
Ouais.
Tu reçois du monde chez toi pour travailler toutes ces questions. Est-ce que t'as une volonté de diffuser ce livre-là ? Comment tu vas t'y prendre maintenant ?
Alors, on a fait une présentation à la petite librairie de La Chapelle, le Café des Loisirs. Je vais en faire une à Vassieux, tu sais, l'autre.
Aux Espelines.
C'est aux Espelines. Et puis après, j'attends des nouvelles de mon éditrice, puisque c'est eux qui sont censés me trouver aussi des pistes de présentation à travers des librairies, des radios comme ici, ou bref, peut-être la télé, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, moi, je vais contacter pas mal de libraires. Là, je vais normalement avoir une intervention à Luna à Grenoble. Enfin voilà, ça va un peu se passer comme ça.
Oui, l'idée, c'est de diffuser une fois qu'on a écrit ça, quoi.
Ouais. C'est ça.
Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé, Patricia, qui seraient importantes pour toi, avant qu'on referme cette interview ?
Écoute, je peux éventuellement lire un petit passage. Qu'est-ce que tu en dis ?
Allez, vas-y.
Allez, sinon je peux lire peut-être, je tombe dessus là, en ouvrant le livre, par la fin. Je vais lire la fin. C'est une page.
Allez.
Dans le grand cycle perpétuel de la vie, la femme sauvage et la femme souveraine cohabitent de façon intermittente. Comme les vagues, elles offrent au monde des mouvements puissants, parfois violents, mais aussi des temps suspendus, silencieux et paisibles. J'aime beaucoup cette métaphore de la vague. Femmes sauvages et femmes souveraines sont comme elles. Elles naissent loin, dans le secret du large, et apparaissent dans un silence tendu, gonflé de souffle et de puissance contenue. Leur dos se courbe, lisse et miroitant, comme un animal sauvage prêt à sauter sur sa proie. Puis dans un frisson d'écume, elle se redresse, s'élève, se cambre sur elle-même, suspendue un instant entre équilibre et chute. Alors, d'un seul mouvement, elle cède à leur propre gravité. Elle se brise, éclate, rugisse, libérant dans un tumulte vaporeux et blanc toute l'énergie qu'elle portait. L'eau roule, éclabousse et retombe sur le sable dans un bruissement de fin du monde et de recommencement. Bon, je vais m'arrêter. C'est pas tout à fait fini, mais voilà, ça vous donne un peu un état d'esprit.
Patricia Olive, pour ce livre « Corps libre et cœur sauvage, une aventure dédiée aux femmes vivantes » aux éditions Jouvence. Ouais. Merci beaucoup d'être venue nous présenter ça ce matin.
Merci beaucoup de m'avoir accueillie. Merci beaucoup.